Chapitre 58. Une fois dehors, Charcot prit une large inspiration, les mains dans les poches de son blouson. Aussi curieux que cela puisse paraître, il se sentait presque soulagé de quitter la capitale, même pour se rendre dans l'un des lieux les plus effroyables de la planète. « Faut vraiment que tu m'expliques tout, là, » fit Lucie. « J'ai l'impression d'être largué. » Charcot se remit en marche. « Je te raconterai tranquillement à l'hôtel. Je passe un coup de fil à Bélanger pour le prévenir. » Quand je suis venu ici avec lui ce matin, j'ai lu dans ses yeux que l'idée d'envoyer quelqu'un là-bas lui avait traversé l'esprit. Après son appel fructueux, Bélanger avait immédiatement accepté. Charcot avait décidé de retourner en plein cœur de Paris. Le taxi les déposa devant un bel hôtel 3 étoiles, à proximité de la place de la Bastille. Pour une fois, Charcot appréciait la présence du monde, des touristes, toutes ces voix joyeuses qui s'élevaient dans les airs. C'était tellement rassurant de savoir que là, tous les deux, ils ne craignaient plus rien. Le tueur, s'il guettait leur retour à l'appartement, n'allait pas tarder à se morfondre et à se poser de sérieuses questions. Après avoir déposé leurs valises, ils dînèrent au restaurant de l'établissement. Charcot avait demandé une table dans un coin calme. Il remit enfin Lucie à niveau dans leur enquête, expliquant les découvertes chez Schaeffer, les animaux dans les aquariums, l'aventure amoureuse avec Valérie Dupré, le rôle de sa fondation, les transports des enfants ukrainiens dans les familles françaises. Il parla du césium qui envahissait l'organisme, des petits malades pris en charge dans le service de médecine nucléaire. Puis il en tira clairement les conclusions qui s'imposaient. Schaeffer choisit lui-même les groupes de gamins qui vont venir en France à l'aide de cartes météo de l'époque de la catastrophe. Ces gamins ukrainiens, il les étudie un à un en France par l'intermédiaire de son service de médecine nucléaire. Quand on a les photos de ces enfants allongés sur des tables d'opération entre les mains, on ne peut s'empêcher de penser que Schaeffer utilise son association à d'autres fins. Des fins en rapport avec le taux de contamination au césium-137. Il y a forcément une relation avec le manuscrit aussi. Césium égale radioactivité, et radioactivité égale Albert Einstein ou Marie Curie. Tout doit découler des découvertes issues de ces maudits écrits. Ça ne fait plus aucun doute. Ce qui est certain et concret, c'est que Schaeffer fait venir les enfants contaminés, réalise des mesures dans un service de médecine nucléaire et les renvoie dans leur pays. Les collègues sont en train de voir si des enfants de l'association venus les années précédentes ont disparu. Il laissa le serveur poser leurs assiettes chaudes sur la table, puis reprit doucement. J'ai la certitude que l'association est une solution alternative à la fermeture du centre de diagnostic à Kursk en 2003, afin que Schaeffer puisse continuer ses activités secrètes. Il y a 8 ans, il était personnellement sur place pour faire ses consultations et mener à bien ses sombres ambitions. Il n'avait pas besoin de faire de si lourds transferts entre ses pays et la France. Lucie planta sa fourchette dans une oie de Saint-Jacques. Ça semblait très appétissant, mais pour une fois, elle n'avait pas faim. Tu parles d'un centre de diagnostic datant d'il y a 8 ans. Tu veux dire que toutes ces horreurs sur les enfants existeraient depuis 1998, la création de la Fondation. J'en ai bien peur, oui. Rappelle-toi l'une des photos. Elle avait été prise avec un appareil argentique et développée sur un papier qui n'est plus en circulation depuis 2004. Cette Fondation est l'arbre qui cache la forêt, j'en suis quasiment certain. Charcot écrasa son index sur la table. Le chasseur qui s'acharne sur moi est un malade, un psychopathe. Mais il n'est rien à côté de types comme Schaeffer. Ces gens-là évoluent dans une autre dimension du mal, dans l'unique but de servir leurs sombres convictions. Tu sais comme moi jusqu'où ils sont capables d'aller, et ce qu'ils feront pour ne pas se faire prendre. Oui, elle savait. Ils en avaient déjà rencontré par le passé. Des monstres au-delà des normes, intelligents, capables de tuer en masse, sans avoir le moindre remords. Tout cela au service d'une cause que seul leur cerveau malade pouvait comprendre. Elle avala une noix de Saint-Jacques à contre-cœur. « On ne retrouvera jamais Valérie Dupré, » souffla-t-elle, le visage triste. « On ne doit pas perdre espoir. » « Dis, Franck, Tchernobyl, oui. Si je suis enceinte, tu ne crois pas que ça pourrait être dangereux pour... On fera attention. Et comment tu veux faire attention face à la radioactivité ? On n'entrera pas dans la zone interdite, on ne mangera pas leurs produits, on ne boira pas leur eau. On ne sera que de passage, ne l'oublie pas. » Charcot avala son risotto de Saint-Jacques en silence. Tous les deux, au fond, pensaient à ces ombres malfaisantes qui évoluaient tranquillement dans les strates d'une société aveugle. Un étau de mort les comprimait et les forçait à avancer, à s'enfoncer sur un chemin obscur, aux deux issues bouchées. Derrière, le tueur, et devant, la folie humaine. Il était aux alentours de 22 heures quand ils remontèrent dans leur chambre. Dehors, il neigeait. Pour les familles, Noël aurait quelque chose de féerique cette année. Ils firent l'amour avec l'envie de croire que, un jour, le soleil se lèverait enfin dans un coin du ciel et qu'il leur réchaufferait le cœur pour longtemps. Ces deux cœurs qui, ce soir, étaient aussi froids que la pierre.